Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Benjamin Muller, bienvenue dans le podcast France Télévisions, le podcast des maternelles. Le podcast des maternelles, et aujourd'hui on parle des enfants. Alors avant on disait des enfants surdoués, puis on a dit les enfants précoces, maintenant on parle plutôt des enfants haut potentiel, voire haut potentiel intellectuel, les fameux HPI. On parle de ces enfants, du diagnostic du haut potentiel chez les enfants, et puis de la prise en charge, même si évidemment il ne s'agit pas d'une pathologie, il y a néanmoins une prise en charge pour aider ces enfants tout simplement à être le plus heureux, le plus épanoui possible et aider bien sûr les parents à leur donner des clés avec ces enfants. Donc vous allez entendre un témoignage, celui de la petite Marjane, elle-même HPI, il faut imaginer qu'à 2 ans elle a appris à lire toute seule, un exemple parmi d'autres, vous allez l'entendre, et puis sa maman Fatia qui est là également et qui répondent toutes les deux à Agathe Le Caron. C'est parti.
Alors, il ne s'agit pas d'une pathologie dont on va parler aujourd'hui, encore moins d'un handicap. On parle d'une spécificité, une façon d'être au monde. Les enfants à haut potentiel, qui représentent environ 2% de la population, présentent donc un intellect surdéveloppé, mais peuvent aussi rencontrer des difficultés d'adaptation à l'école, parce qu'ils se sont un petit peu décalés. Marjane, bonjour. Alors toi, tu n'es pas haut potentiel, tu es très haut potentiel. C'est-à-dire que tu as 8 ans, tu es déjà scolarisée en 6e. Et pour raconter ton parcours, qui n'a pas toujours été simple, il faut le dire, tu es venue ce matin avec ta maman, Fatia. Bonjour Fatia.
Bonjour.
Merci d'être là. Merci d'avoir accepté notre invitation, Marjane. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que ça veut dire être un enfant à très haut potentiel?
Ça veut dire s'ennuyer en classe, être en décalage avec les autres, faire des choses différentes parce qu'on sait déjà les faire depuis longtemps, les choses que les autres font à l'école, par exemple, voilà, et sauter des classes.
C'est ce qui te vient en premier dans la tête, c'est l'ennui, toi, Marjane, quand on parle de ta spécificité.
Oui, l'ennui.
Fatia, avant que Marjane soit diagnostiquée véritablement, est-ce que vous aviez déjà remarqué qu'elle s'intéressait à des choses un petit peu différentes des enfants de son âge?
Oui, tout à fait. Alors, c'est venu très tôt, en fait. Dès la première année, bébé, en fait, on a constaté une grande tonicité. Oui. Déjà, on sentait que quand on la portait, effectivement, il y avait un corps
elle
très...
Elle était bien présente.
Bien
quoi.
Présente, le regard vif. Elle a su parler, avancer un an, des phrases.
Dingue. Mais on a du mal à imaginer.
Oui.
Mais c'était donc une phrase.
Une phrase, par exemple, c'était « Maman, je t'aime ». Et puis les premiers mots, alors elle parlait pas « petit bébé » entre guillemets. Ouais. Elle a fait bien sûr des mots un peu, des sons qu'elle n'arrivait pas trop à prononcer, mais pratiquement, tout de suite, ça a été des sons clairs, nets, des mots précis, quoi, comme un adulte.
C'est ça. Elle a appris à lire toute seule aussi.
Elle a appris à lire toute seule. Et c'est là où on s'est dit, il n'y a plus de doute, en fait. En fait, ce qui se passait, c'est que... Deux ans, même un peu avant, mais à deux ans et demi, elle a su lire parfaitement. Et
là, c'est incroyable. Alors justement, pour que vous vous rendiez compte du niveau de lecture de Marjane, on était allés chez vous il y a très longtemps, parce que Marjane, tu avais 3 ans. Oui. Et on avait posé nos caméras chez toi et on t'avait filmé discretos.
Les cératopsiens, ils ont des noms compliqués, souvent le styracosaure. Lignosaure.
Avant, les paléontologues, ils imaginaient l'iguanodon comme ça. Ils les imaginaient avec une corne. Mais le vrai, c'est celui-là. Et ils ont inversé que ça soit le vrai.
En fait,
la végétation, on n'a pas encore mis des carnivores. Il faut mettre des dinosaures carnivores aussi.
Marjane, donc on voit les dinosaures, c'était ta passion quand tu avais 3 ans.
Oui.
Il y avait d'autres passions à l'époque, tu te souviens de ce qui te plaisait?
Les chiens, dans le reportage, je l'ai revu, il y avait aussi une grande pancarte avec les chiens. Les chats.
Donc tu connaissais toutes les races de chats, toutes les races de chiens?
Non, les chats, je ne connaissais pas toutes les races, ça c'était après. Les chiens, je connaissais toutes les races, j'ai une grande pancarte. Puis les chats, et puis d'ailleurs, il y a eu un moment aussi à l'école où quand j'étais arrivée ici au début, et en fait, je demandais toujours aux gens le nom, l'âge, la race et le sexe de leur chien.
Et c'est ça. Et par exemple, les planètes, c'était un truc qui te passionnait ou pas? Parce que généralement, les enfants au potentiel, ils adorent.
Non, moi...
Non, c'était pas ton truc?
Non, moi, j'ai aimé les chats, puis après les chevaux,
Mais c'était les animaux, toi.
Oui,
de toute façon, on va en reparler, parce que les animaux, t'aimes vraiment beaucoup. Est-ce que tu avais l'impression, Marjane, d'être un petit peu en décalage par rapport à tes camarades à l'époque? Tu te souviens comment tu te sentais?
Je faisais du travail différent, mais plutôt, il y avait à l'époque qu'un an de décalage. Et si on remonte vraiment avant, petite section et puis tout, il n'y avait pas d'année de décalage.
Non, mais je ne parle pas en âge, mais est-ce que toi, tu te disais, oh là là, moi, ce qui intéresse mes copains, ça m'ennuie, quoi. Parce que tu parlais d'ennui à l'école, mais par exemple, quand tu parlais à tes copines, toi, tu avais envie de leur parler de dinosaures ou de races de chiens, et tu ne te disais pas, moi, je m'en fiche de ce qui les intéresse. Ça allait?
Je m'en souviens plus trop.
Plus trop?
Oui. Mais en tout cas, on peut dire que maintenant, ça m'intéresse plus à ce qu'elles disent, en fait.
Oui, mais parce que tu as aussi sauté des classes, on va en reparler.
Oui.
Fatia, donc rapidement...
Mais c'est aussi parce que j'ai changé de passion.
Oui, c'est ça. Bah oui, mais c'est bien, ça évolue.
Oui.
Donc vous disiez, on n'avait pas trop de doutes, mais vous lui avez quand même fait passer des tests à Marjane?
Oui, on a quand même fait des tests parce que pour nous, ça nous semblait quand même extrêmement tôt, cette lecture.
Mmh.
Donc on a passé le WIPSI, effectivement.
WIPSI, c'est le test officiel, c'est ça?
C'est ça, le WIPSI 4 pour les jeunes enfants, donc ils sont entre 3 ans et 6 ans. Et donc là, effectivement, on n'avait pas de doute, on savait déjà, elle était au potentiel. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'on a fait des tests plus poussés en CHU pour justement écarter certaines choses comme l'autisme, Asperger ou d'autres choses, parce que... Elle avait quand même un relationnel particulier, c'est-à-dire qu'elle avait effectivement pas les mêmes centres d'intérêt, des facilités. Donc, on a fait plusieurs tests et là, c'est là où on a découvert que, à 3 ans et demi, elle avait pour 80% du test fait sur plusieurs semaines plus de 12 ans.
Oh là là.
En âge intellectuel.
Donc elle avait 9 ans de plus que son âge.
Voilà. Savoir que ce test était fait normalement pour les enfants entre 4 à 12 ans. Donc, elle avait au-dessus de... Voilà, mais on ne pouvait plus quantifier.
Incroyable, incroyable. Donc, ça correspond à 0,01% de la population. Tu es unique, hein, Marjane, tu as vraiment de la chance. Comment est-ce que vous avez réagi à ce résultat? C'est quelque chose qui vous a fait peur,
Oui, parce que... Alors déjà, ça nous a... Alors, premièrement, ça nous a quand même soulagés, parce qu'on a écarté des choses, on savait que c'était vraiment de la précocité, et ça nous a fait peur aussi. Parce qu'on s'est dit, ça commence, on va sûrement en reparler, l'école, ça a été extrêmement compliqué. Elle rentre en maternelle, elle sait lire, elle s'intéresse à des choses différentes. Comment maintenir, elle ne fait pas de sieste, comment maintenir une enfant qui a envie d'apprendre, d'aller plus loin?
Alors justement, comment ça s'est passé les premières années d'école pour Marjane?
C'était catastrophique,
ouais.
Catastrophique. La première année, on l'a même enlevée de sa classe.
Ah oui.
Voilà, parce qu'elle était censée être en petite section, faire la sieste, elle ne voulait pas. Et donc, on a décidé de l'inscrire dans une école spécialisée pour les enfants à haut potentiel. Et là, c'était une classe unique pour les enfants de maternelle jusqu'à CP inclus. Et même là, Marjane s'ennuyait et ne voyait pas d'intérêt. C'était compliqué.
Tu te souviens, toi, de ce que tu ressentais? Ou t'es trop petite? Ou t'étais trop petite?
Ce que je ressentais?
Oui.
Y avait des filles où je m'embrouillais avec elles. J'avais déjà des copines, mais on était très peu, faut dire, dans la classe. Hein. On était très peu. Je crois qu'on était 6 avec les CP. Il n'y avait que les petites sections et les CP. C'était une classe... je trouve que je ne comprends plus rien maintenant à cette classe.
Mais dis-moi, on dit souvent, tu sais, que les enfants à haut potentiel, leurs émotions sont très, très dures à gérer. Est-ce que toi, tu te sentais un peu dépassée par tes émotions de temps en temps?
Oui, l'année dernière, par exemple, des choses comme ça.
C'est-à-dire que tu n'arrives pas à contrôler?
C'est moins présent cette année, mais l'année dernière, c'était très fortement présent.
C'est vrai?
En fait, c'était plutôt toutes les émotions négatives, sauf l'ennui.
C'est ça.
En fait, il y a eu de la colère, quand j'avais perdu un jeu, de la tristesse.
Ça veut dire quand tu dis que c'est
De la peur vu que les autres ils venaient.
Voilà. Et t'arrives pas à gérer, ça veut dire que t'arrives pas à l'enlever cette émotion qui est négative.
Oui. Et je laissais personne s'approcher de moi en fait. Mais aussi je peux avoir des excès de joie par exemple en ce moment quand j'écoute une chanson qui est drôle, qui me fait penser à des choses, Et bah, en fait, et bah, ça me fait rire, ça m'a fait rire plein de fois et mes parents n'aiment pas. Enfin, ils sont surpris, quoi.
Fatia, il y a 2 ans, vous avez entamé des démarches avec l'Éducation nationale pour trouver un environnement adapté pour Marjane. Vous en êtes où, là, aujourd'hui ?
Alors, tout à fait, c'est ce qu'on a fait. Ce qui se passe, c'est qu'on voyait... Marjane avait quand même sauté une classe, parce qu'après, on a déménagé, on est parti vivre en bord de mer. Donc, on ne pouvait plus rester dans cette école d'enfants précoces. Et elle a quand même sauté une classe, mais... Le décalage était trop énorme. Donc, on a discuté avec l'académie, voir ce qui pouvait être fait pour Marjane. Plusieurs choses ont été proposées. On nous a même dit l'école à la maison. Mm-hmm. Alors, moi, je ne voulais pas, parce qu'en termes de sociabilisation, c'était important qu'elle puisse quand même être avec ses pairs.
Bien sûr.
Et on nous a conseillé une école-collège. Et donc, on a été voir...
Quand même avec ses pères.
Avec ses semblables.
C'est...
Hein.
Voilà, ses semblables, exactement.
Avec des
voilà.
Pères, comme des paires de chaussettes.
P-A-I-R-S.
Exactement. Et donc, on nous a conseillé une école privée, école-collège, où justement, voilà, ça pouvait être quelque chose de bien. On a rencontré l'équipe pédagogique et on avait le choix, en fait, avec la possibilité de... Marjane pouvait sauter 2 classes, 3 classes ou 4 classes. En fait, ce n'était plus une question de niveau. Ce qu'on voulait, c'était surtout qu'elle intègre un groupe et qu'elle se sente bien, comme elle l'a dit, par rapport à ses émotions, qu'elle puisse avoir des amis, qui chose jusque-là a été complètement
Bien sûr, mais quand
voilà,
on l'entend, on se comprend très bien, d'ailleurs.
Et on a trouvé une classe où, effectivement, elle ne sait plus, et elle est rentrée en, voilà, 7 ans en CM2, avec un groupe qui est très bienveillant, une équipe pédagogique vraiment... très bien, ou Marjane, bah, peut-être, voilà, va vous le dire, ça se passe oui. Vraiment bien.
Comment tu te sens alors aujourd'hui ?
Bah, alors aujourd'hui, quand je vais voir bah, mes copines, c'est super, je leur raconte plein de trucs. Bah, une fois, il y a juste une copine qui m'a dit « tu parles beaucoup de toi », des trucs comme ça, mais ça se passe super
tu
bien.
Tu t'ennuies plus en classe ?
Plus trop, non. En classe, je fais souvent autre chose, mon agenda est tout gribouillé. Et du coup, bah, je m'ennuie quand même un peu. Par exemple, sur les cours d'anglais où je sais déjà, des choses comme ça. Et ma meilleure amie aussi, elle le sait déjà sur les choses d'anglais. Elle s'appelle Lucille, ma meilleure amie.
Bon, on l'embrasse alors, Lucille.
Oui. Et Lucille, elle a failli sauter 2 classes, Lucille.
Ah oui, bon, donc vous vous entendez bien.
Une deuxième fois, oui.
Jeanne Siofachin, merci d'être avec nous. Vous êtes psychologue, clinicienne, auteur du livre « L'enfant surdoué, l'aider à grandir, l'aider à réussir » aux éditions Odile Jacob. Ça tombe bien, c'est exactement ce qu'on va essayer de dire aux parents qui nous regardent aujourd'hui. Et puis vous êtes aussi co-auteur avec le docteur Jean-Christophe Seznec du livre « Grandir, vivre, devenir » toujours aux éditions Odile Jacob. Comment est-ce qu'on peut faire en tant que parent ? Qu'est-ce qu'on peut mettre en place comme action éducative pour que ces enfants qui sont au potentiel puissent être épanouis dans le système scolaire ? Parce qu'on sait que c'est la clé, en fait. Parce que ce sont des enfants exceptionnels et des êtres très singuliers, formidables. Mais toute cette période-là, elle est cauchemardesque, et pour eux et pour les parents.
Oui, mais c'est vrai, elle peut l'être cauchemardesque, mais aussi à partir du moment où on comprend l'enfant pour ce qu'il est, c'est-à-dire où vraiment on fait cet effort, mais ce n'est pas le bon mot, c'est-à-dire cette démarche vers l'enfant pour mieux comprendre ce dont il a besoin, quels sont ses besoins à lui et comment on va comprendre exactement son mode de fonctionnement pour essayer d'ajuster au mieux ce qu'on va proposer à l'extérieur, qui est normé, qui est cadré, qui a une façon de fonctionner, et le mode de fonctionnement de l'enfant. C'est-à-dire que ce que je crois, c'est que j'entendais la maman de Marjane dire qu'elle avait eu peur. Mais je crois que ce qui fait peur, c'est la perspective de la difficulté.
Oui, c'est ça.
C'est la projection. Alors que, très sincèrement, quand on a cette capacité, comme la maman de Marjane d'ailleurs, d'entendre son enfant pour ce qu'il est, se dire « Ok, mon enfant fonctionne comme ça, donc par la force des choses, ça risque d'être un peu plus compliqué sur le parcours parce qu'il va falloir ajuster, ça ne va pas être en ligne droite », alors il me semble qu'on peut accompagner tranquillement ces enfants sans qu'eux-mêmes sentent une forme de pression sur les difficultés qu'ils pourraient avoir et qu'ils n'ont peut-être pas encore.
C'est ça,
eh oui.
On a reçu une question envoyée en vidéo pour vous de Maude, regardez.
Bonjour à tous, je voudrais vous poser la question de comment savoir quand on a un enfant qui a un haut potentiel. Peut-on savoir dès le plus jeune âge ou pas ?
Alors,
les symptômes.
Alors, ce ne sont pas des symptômes, déjà, parce que oui. Ce n'est pas une pathologie.
C'est très bien de le dire.
Voilà,
très bien de le
préciser. C'est vraiment important. Ce sont des signes, mmh. et d'une façon générale, c'est un faisceau de signes. C'est-à-dire, ce n'est pas un signe égal telle ou telle particularité. C'est un faisceau de signes. Alors, on peut dire des choses générales, parce que ça se retrouve chez beaucoup d'enfants, mais pas chez tous. C'est vrai que, par exemple, les parents repèrent, et souvent d'ailleurs les mamans, repèrent très vite le regard très scrutateur de l'enfant.
Ça, c'est fou. Ouais.
C'est-à-dire qu'en fait, presque à la sortie du ventre de la maman,
incroyable.
Il regarde le monde avec des grands yeux écarquillés en se disant « Ah, ok, donc c'est ça. »
Ou très intense, hein, quoi.
Et, mais très intense. Oui, mais presque à interroger la personne qui est là en disant « Bon, ok, donc c'est toi qui vas t'occuper de moi, on va
oui,
voir.
Oui, »
à interroger le monde de leurs grands yeux ouverts. Et donc ça, cette intensité dans la présence au monde, c'est quelque chose, par exemple, que les pédiatres repèrent très vite. Les pédiatres sont finalement, je crois, les meilleurs détecteurs de ces enfants un peu singuliers, parce qu'eux, justement, ils ont l'habitude de voir des tas d'enfants et ils voient bien ceux qui sont un peu particuliers. Et puis, ce sont des enfants qui, très vite peuvent rentrer dans le langage, dans les apprentissages, comme la marche, d'ailleurs, parce qu'il y a des idées reçues qui voudraient dire qu'il y a un décalage sur un plan psychomoteur, ce que les études actuelles démontre plutôt le contraire. Mais là où il y a un peu un piège, c'est que tous les enfants surdoués, précoces, à haut potentiel, peu importe le nom qu'on leur donne, ne marchent pas forcément plus tôt que les autres, ne parlent pas plus tôt que les autres. Et quand ils parlent plus tard, ce qui est vrai aussi, c'est que très souvent, ils n'emploient plus un langage bébé. C'est-à-dire que tout de suite, ils maîtrisent et contrôlent le langage et ils parlent.
C'est ça.
Et ils ont aussi cette soif de savoir, ils posent des questions incessantes comme tous les enfants, mais leurs questions à eux sont des questions soit très pertinentes, soit dans les interstices de la vie. Pas forcément des questions évidentes auxquelles on s'attend, des questions existentielles bien évidemment, et surtout, ils vont poser des questions en attendant qu'on aille jusqu'au bout, c'est-à-dire que si vous leur répondez...
Il faut être très précis.
Voilà, c'est ça, il faut être très précis.
Parce que si on leur... du raisonnement.
Oui, parce que si on leur dit, écoute, je ne sais pas bien t'expliquer, ou écoute, arrête de poser des questions, ou écoute, etc., ça ne marche pas. Ils vont aller au bout, du bout, du bout, du bout. Et effectivement, dans les questions existentielles, moi, je me souviens cet enfant de 2 ans qui, en pleine nuit, se réveille, il va voir sa maman et lui dit, maman, maman, je ne comprends pas, je ne comprends pas. On m'a dit que... tu me dis que quand on sera mort, on verra Dieu. Mais on ne pourra pas voir Dieu puisqu'on n'aura plus des yeux.
Et après,
là, qu'est-ce qu'on fait
2h du matin,
à 2h du mat.
Compassion totale.
Pour essayer de remettre cet enfant au lit tranquillement. Quoi. Donc c'est ça. Il y a quand même une appétence à apprendre, à savoir, à aller jusqu'au bout du bout du bout.
Les enfants HPI ont-ils souvent des phobies? Ou plus globalement, est-ce qu'ils sont particulièrement angoissés?
C'est une question hyper compliquée.
On a d'autres au cas où.
Oui, c'est sympa. Je ne sais pas. La vraie réponse, c'est que je ne sais pas. Ou plus exactement, je ne sais pas si on peut le dire comme ça. Ce qu'on peut dire, c'est qu'effectivement, quand on a ce fonctionnement à haut potentiel, on a aussi cette sensibilité extrême qui fait que l'on capte en permanence tout ce qui se produit, qui se passe, qui se déroule autour de nous. Comme si on avait des capteurs branchés en permanence sur le monde, parce que forcément, les 5 sens participent de l'intelligence. On perçoit les informations de l'extérieur ou de l'intérieur. Elles arrivent au système nerveux central. Elles sont brassées par nos neurones à très grande vitesse. Et chez les HPI, c'est à très, très grande vitesse. Ouais. Et effectivement, ça produit quelque chose. Donc, plus on capte, plus on peut... percevoir des informations qui peuvent nous déstabiliser, qui peuvent nous inquiéter, qui
on
peuvent créer
de
des questions.
On évite de montrer le 20h alors aux petits HPI.
Mais très souvent, Benjamin, très souvent. Parce qu'effectivement, souvent, les informations vont créer chez eux toute une arborescence de questionnements autour de comment va le monde, où va le monde, comment on pourrait faire pour arrêter les guerres, comment on pourrait trouver des solutions. Ouais, ça me donne la chair de poule rien que de répondre à cette question, parce qu'effectivement, ça bombarde au sens propre des infos et des images qui vont générer chez tout le monde, mais chez ces enfants-là en particulier, toute une série de questionnements qui peut les amener à être angoissés. Vous voyez, j'étais obligée de faire tout un détour pour répondre à la question.
Et moi, j'ai remarqué chez quelques HPI autour de moi qu'ils étaient tellement sensibles que souvent, c'était des enfants qui ne voulaient même pas regarder des films. C'est-à-dire qu'on leur dit, bah, tiens, on va regarder un film ce soir. Non, non. Tellement la peur de ne pas gérer l'émotion, quelle qu'elle soit, hein, que ce soit une émotion positive ou négative, était forte chez eux. Quoi. Vous remarquez ça aussi ?
C'est-à-dire que, contrairement à ce qu'on pense, ces enfants-là, ils ont plutôt une hypermaturité émotionnelle qu'une immaturité qui est souvent la cause avancée par l'école, par exemple, c'est pour ça. Les autres classes. Oui. Alors que ce sont des enfants, et on l'a vu avec Marjane tout à l'heure dans l'interview que vous faisiez avec elle, qu'elle a des compétences émotionnelles incroyables. Elle connaît les émotions, elle sait quelle est l'incidence de telle ou telle émotion. Et donc, quand ces enfants-là sont confrontés à un film où ils savent d'avance, puisque c'est le but d'un film, que ça va générer et faire bouillir des émotions à l'intérieur d'eux, ils peuvent avoir une forme d'appréhension. Et moi, je me souviens d'un enfant qui avait l'âge de Marjane, à peu près 8 ans, et qui disait qu'en fait, il utilisait sa capacité à analyser pour anticiper ce qui allait se passer dans le film pour se préparer émotionnellement à ce qui allait se passer.
C'est fatigant. Mais juste rassurez-nous, parce qu'on parle beaucoup d'angoisse, de questionnement, etc. Mais c'est des enfants qui peuvent être heureux, elle est très bien.
Mais oui, bien sûr. Ce sont des enfants qui peuvent aller très bien, mais c'est vraiment une question d'environnement et de contexte. À partir du moment où ils ont une forme de sécurité interne, une sécurité affective à l'intérieur d'eux, qui sont dans un contexte affectif, familial, où il n'y a pas de stress particulier autour de cette particularité, où surtout, ils sont dans un milieu scolaire bienveillant qui accepte la singularité de cet enfant comme mille et une autres singularités, alors tout va bien, parce que c'est quand même formidable aussi d'avoir cette espèce d'enfant. Je dis cette espèce d'enfant avec beaucoup de...
On entend des cris d'enfant.
Mais tout à l'heure, il y a quelqu'un qui regarde des films derrière mon coulisses, tu ne sais pas, dans la salle de bain de la maison des maternelles.
Ah, une souris, vous diriez, je crois que c'est un enfant.
C'est mais non, c'est pas ni un enfant ni une souris, c'est quelqu'un qui regarde des vidéos. Tout à l'heure, j'avais déjà remarqué. Et j'ai donc eu envie de lui décaper le visage au papier de verre. Alors, allons-y, enchaînons.
Est-ce qu'il y a plus de surdoués aujourd'hui, dit Annabelle ? Alors déjà, surdoué, je crois que c'est un terme qu'on n'aime pas trop.
Alors, c'est surtout un terme qui est désuet, c'est-à-dire que c'est marrant parce qu'il y a des histoires de mode. Hein. Surdoué, c'est la traduction presque littérale du gifted anglais, qui veut dire doué, donc qui a reçu un cadeau, et donc ça donne cette sensation qu'on a reçu un truc comme ça sur la tête et qu'on est waouh. Mais c'était la terminologie des années 70, 80, c'est comme ça, 90, c'est comme ça qu'on appelait ces enfants-là. Et puis, après, est arrivé précoce, qui est un terme, moi, personnellement, que j'aime pas beaucoup, mais qui était celui qui était adopté par l'Éducation nationale parce que c'était politiquement plus correct, parce que précocité, ça veut dire qu'à un moment, il y a une avance et qu'à un moment, tout le monde sera pareil, ce qui s'avère forcément faux. Hein. On ne devient pas un adulte précoce, parce que sinon, c'est quand même un peu étrange, l'affaire.
Puis ça ne correspond pas à la réalité.
Ouais. Enfin, ça correspond pas à la réalité.
C'est pas de précocité.
Non. Exactement. C'est-à-dire qu'il peut y avoir une avance de développement affectif, cognitif, tout ce qu'on veut, scolaire, mais ce n'est pas un signe pathognomonique, comme on dit dans notre métier. Hein. C'est-à-dire que ce n'est pas obligatoire que ça se passe comme ça. Mmh. Donc, la précocité intellectuellement précoce, ça ne marche pas. Après, nous est arrivé de Belgique et de Suisse le HP pour Harry Potter, bien évidemment.
Hein? Ah, c'est vrai, ça vient de là.
Non, mais
vous m'avez fait peur. J'ai dit, voilà, HP tellement... au potentiel, ça correspond à Harry Potter, c'est super. Là, vous savez, je suis très premier degré.
Mais c'est bien. Attention.
Ou hôpital psychiatrique.
Ouais. Oui. Ou Hewlett Packard. Enfin, bon, bref, on peut imaginer Michel. Hautement performant, hors programme. Enfin, bon, bref.
Au potentiel.
Au potentiel, donc. Et puis, depuis plus récemment, maintenant, on met un I pour préciser au potentiel intellectuel. Et moi, depuis très longtemps, pour sortir de tout ça, j'ai appelé ces enfants-là, les zèbres.
Ah oui, c'est vrai.
Voilà, c'est ça.
Mais juste, est-ce qu'il y en a plus ?
Non, mais pas du tout. C'est-à-dire qu'il y a toujours 2,3% de la population, quoi qu'il advienne, qui a un score de ce fameux QI qui est égal ou supérieur à 130, qui, pour le coup, est quand même le premier et le seul indice scientifiquement validé pour commencer à parler de l'ensemble des caractéristiques ou des conséquences, d'ailleurs, de ce haut potentiel. Ce qui a bougé, c'est le fait de faire plus facilement des bilans. C'est-à-dire qu'il y a toute une époque aussi à la fac, post-68 et encore après, où il ne fallait surtout pas plus apprendre les bilans psychologiques parce que c'était, soi-disant, mettre les gens dans des cases et mettre des étiquettes. Et puis aujourd'hui, avec l'avancée prodigieuse des neurosciences et de la compréhension du club des 10, les dyspraxiques, les dyslexiques, les dyscalculiques, mais aussi du trouble de l'attention, de tous les dysfonctionnement à minima dans le cerveau, on a compris que c'était important, quand un enfant était en difficulté à l'école, de ne pas tout de suite lui dire il a un poil dans la main, il est paresseux ou il n'est pas motivé, qui sont des espèces de tartes à la crème pour couvrir les difficultés, mais qu'il fallait aller voir de plus près et donc faire un bilan approfondi pour faire ce qu'on appelle dans mon métier un diagnostic différentiel et faire la part des choses. Donc soit on peut identifier et pas diagnostiquer, puisque ce n'est pas une pathologie à haut potentiel. Soit on peut avoir d'ailleurs à haut potentiel plus une dyslexie, à haut potentiel tout seul, ou, ou un trouble des apprentissages. Et c'est ça qui a fait qu'aujourd'hui, on les identifie beaucoup plus. Et donc, ça donne cette sensation, parce que 2,3%, l'air de rien, c'est beaucoup, en réalité. Et comme ça, le chiffre paraît...
C'est énorme.
Et donc, plus on les identifie, plus on comprend leur fonctionnement, plus les recherches scientifiques avancent, plus il y a des cliniciens, parce qu'il y a 25 ans, moi, quand j'ai commencé à m'intéresser à ce sujet, on était, quoi, ça se comptait sur les doigts de deux mains, les psychologues qui s'intéressaient ou qui faisaient des bilans autour de ça.
Oui, on appelait ça les singes savants, les premiers de classe.
Mais c'est ça, mais c'est ça. Et du coup, aujourd'hui, tout le monde est spécialisé et expert. Bon, et tant mieux.
Bon, après, oui, mais après, voilà. Bon, il ne faut pas non plus...
Après, il faut faire attention parce que c'est vrai qu'il y a une mode. Oui. Enfin, je le dis avec beaucoup de tranquillité, il y a une mode. Et que très vite, et moi, c'est ce... contre quoi je lutte beaucoup, en lisant un bouquin, et je ne devrais pas dire ça, mais en lisant un bouquin, en regardant une émission, et je ne devrais pas dire ça ici, en lisant un article, on va s'autoproclamer ou autoproclamer son enfant, et du coup, ça peut masquer d'autres difficultés ou d'autres particularités, et ça, c'est hyper embêtant.
Oui, puis c'est compliqué parce que ça pousse les parents et les gens en général à mettre des étiquettes sur les enfants. Et
mais
quand
bien
même...
sûr, et du coup, à identifier... Et à dire
et à stigmatiser.
Et à stigmatiser. Et c'est ça qui stigmatise. C'est pas la démarche psychologique où on fait un bilan, où d'ailleurs on n'explore pas uniquement et jamais. Enfin, ça aussi c'est un de mes combats. Jamais uniquement le fonctionnement intellectuel, le fonctionnement de l'intelligence, mais toujours aussi la dynamique de personnalité et le fonctionnement psycho-affectif. On n'est pas juste une tête ou juste un cœur, même si on pourrait penser que par moment c'est la sensibilité qui fait la différence. Et c'est là où il y a des dérives beaucoup. Il faut faire hyper gaffe. Parce que autant c'est essentiel d'identifier, autant les autoproclamations, et alors c'est encore pire chez les adultes, fait que ça masque énormément de choses. Et moi je dis quand même, et promis je m'arrête après, tant mieux, parce que dans le fond, le fait de l'autoproclamation, si on va chercher le côté positif, eh bien ça fait rentrer des personnes au cabinet et on peut enfin les rencontrer
et
les aider pour d'autres choses.
Merci beaucoup à la psychologue Jeanne-Sio Fachin, merci infiniment à Fatia et surtout à Marjane d'être venue nous voir dans la maison des maternelles. On se retrouve demain pour un nouvel épisode du podcast des maternelles. Quand vous le souhaitez sur les réseaux sociaux, si vous avez des idées de thèmes à me suggérer, n'hésitez pas. Et moi je vous dis bonne journée, bonne nuit, bon après-midi, ciao tout le monde.